I'm turning now to the Gospel of John, chapter 8 and verse 12.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu à présent dans l'Évangile de Jean au chapitre 8 et au verset 12. L'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus parla encore au peuple et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et notre sujet, c'est « Trouver la vérité et la vie. » Ces paroles ont été données plutôt à la fin du ministère de Christ, de son ministère en Judée, vers la fin de la troisième année de son ministère. Il y a moins de 4 mois qui restent avant qu'il n'aille à la croix du calvaire, qu'il se laisse, dans une faiblesse apparente, être arrêté et être accusé injustement et crucifié et mis à mort. C'est la deuxième déclaration des « Je suis ». Jésus leur dit à nouveau « Je suis la lumière du monde ». De quelle manière, comment est-ce que Christ peut être décrit comme étant la lumière du monde? Il dit qu'il est le Messie, qu'il est le Messie promis dans les Écritures juives, celui qui allait venir, celui par qui le salut allait être donné pour l'humanité, pour toutes les nations du monde. Et il annonce ceci. Il le fait de différentes manières. Il dit « Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, etc. » Ce sont des déclarations extraordinaires. Il a fait tant de miracles. Il a exprimé la compassion de Dieu. Il a montré sa divinité. Et à présent, il déclare ces choses dans des paroles extraordinaires. Et c'est là une déclaration particulièrement importante. Probablement, on ne peut pas être sûr, mais probablement donnée pendant le 7e jour de la fête des tabernacles au temple. Et pendant cette fête, il y avait le grand chandelier avec ses 7 branches qui étaient allumées. Il y avait 4 chandeliers additionnels, immenses, qui étaient rajoutés près de la cour des femmes. Et il y avait beaucoup de lumière dans le temple. Et ces 4 chandeliers étaient illuminés pendant 6 jours de la semaine. Et le 7e jour, ils étaient sombres, dans l'obscurité. Ils n'étaient plus allumés. Et on pense que Christ était là le 7e jour de cette fête qui était l'apogée de la fête, et il donne ses paroles au début de sa prédication. « Je suis la lumière du monde ». Et ceci est un contraste avec ces chandeliers artificiels qui sont allumés dans le temple. C'est probablement le moment qu'il a choisi. On ne peut pas être sûr, mais c'est probablement le cas. « Je suis la lumière du monde ». Rapidement, j'aimerais montrer comment Christ est la lumière du monde. D'abord, Christ est la lumière du monde parce qu'il est l'auteur de toute révélation. La révélation de Dieu, la vérité révélée, les Écritures, la Bible, il est l'auteur. Ceci nous est dit, la parole a été faite chair et il a demeuré parmi nous. Il est la parole, il y a le Dieu Tout-Puissant, une seule essence divine, un seul Dieu éternel, tout-puissant au ciel. Mais il y a 3 personnalités en Dieu, dans la Trinité. Et ces 3 personnalités sont parfaitement une, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui partagent l'essence divine. Et de Christ vient la révélation de la vérité de Dieu au monde. Combien nous avons désespérément besoin de la révélation. Oh, si vous n'avez pas l'habitude d'entendre ces choses, peut-être vous allez penser que c'est bizarre, et peut-être qu'une voix vous dit « Pourquoi est-ce que nous avons besoin d'une révélation? Pour quel but? Pourquoi une révélation ?» Mes chers amis, ceci devrait être évident pour nous. Nous ne pouvons pas connaître quoi que ce soit par rapport au Dieu Tout-Puissant, sa personnalité, ses attributs, son opinion, pourquoi il a créé le monde, pourquoi il le soutient, pourquoi il a créé chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'il a préparé, ses desseins? Nous ne pouvons savoir aucune de ces choses, à moins que Dieu ne nous le dise. Il y a beaucoup de religions, beaucoup de spéculations humaines, et beaucoup de religions basées sur l'imagination humaine uniquement. Et je pense que Dieu peut être ainsi, ou il doit avoir ceci à l'esprit, ou son dessein doit être ceci ou cela. Mais rien ne peut être juste. Parce que comment pouvons-nous savoir? Nous sommes si loin de Dieu Et nous sommes des êtres, des créatures limitées et finies. Nous sommes dans le temps et dans la chair. Nous vivons comme dans une boîte, comme des créatures matérielles, même si nous avons une âme. Nous vivons dans une boîte limitée. Nous ne pouvons pas voir dans l'esprit la pensée du Dieu Tout-Puissant. Ceci est bien au-delà de nous-mêmes. Nous avons besoin qu'il se révèle à nous. Et si nous pouvons le connaître et marcher avec lui, alors lui va nous montrer comment nous pouvons faire cela. Comment est-ce que ce grand fossé peut être comblé, ce fossé entre lui et nous, et comment nous pouvons être réconciliés avec lui? Ainsi, nous avons besoin de la révélation de manière désespérée. Christ est la lumière du monde parce qu'il est l'auteur et celui qui donne toute révélation authentique. Il révèle dans les Écritures la nature même de Dieu, les attributs de Dieu, le caractère de Dieu, les caractéristiques du Dieu Tout-Puissant. Il révèle sa pureté, sa sainteté. Il révèle dans les Écritures, du point de vue de Dieu, l'histoire de la race humaine, sa création, sa chute loin de Dieu et sa séparation de Dieu, sa situation désespérée dans le péché, loin de Dieu, sous la condamnation. L'Écriture révèle, et c'est Christ qui est l'auteur, elle révèle le dessein de Dieu pour racheter tant de personnes, des hommes et des femmes, des millions de personnes, de les sortir de cette situation séparée de Dieu, pour connaître Dieu, marcher avec lui, pour être pardonné. L'Écriture nous dit toutes ces choses, et rien de ce que l'Écriture nous dit n'est ce que nous aurions imaginé de manière naturelle. Nous imaginons que s'il y a un Dieu, oh, et si nous sommes séparés de lui, si nous avons besoin d'être réconciliés avec lui, alors, d'une manière sûre, nous pouvons mériter quelque chose ou faire de bonnes œuvres. Mais non, c'est impossible. Et nous sommes surpris quand l'Écriture révèle qu'il y a un chemin de grâce, une grâce qui n'est pas méritée, le pardon qui n'est pas mérité, qui est libre. Et Dieu va nous amener à lui, nous purifier et se faire connaître à nous. C'est dans les Écritures que nous lisons que Dieu lui-même a dû faire tout ceci. Un membre de la Trinité a dû venir sur cette terre incarnée. Il a dû nous représenter, être un homme parfait. Il a dû souffrir toute la condamnation du péché de tous ceux qui seront pardonnés, de manière à ce que Dieu pouvait leur pardonner et les amener à lui-même. Et nous avons ces choses dans la parole de Dieu, dans les Écritures. Il y a d'autres lumières que Christ qui sont également authentiques et qui resplendissent moins. Dieu n'a pas envoyé son Fils avant qu'une certaine période de l'histoire ne passe et avant qu'il ne naisse à Bethléem. Et vous connaissez bien l'histoire. Avant que ceci ne se passe, de siècle en siècle, Dieu a pris ce peuple, les Juifs, et les a éduqués, et les a enseignés par rapport à lui-même. Il leur a donné des prophètes, des sacrificateurs, des lois cérémonielles et des lois d'adoration. Toutes ces choses étaient une formation, des leçons pour les enseigner. Les prophètes ont parlé de Christ, comment il allait venir, ce qu'il allait faire, quel sera son caractère. Et durant tout l'Ancien Testament, les gens seront amenés à se confier en Dieu pour le pardon. Et que quelque chose va se passer pour leur donner le pardon. Ces lumières plus faibles n'ont pas donné le salut, mais le salut est venu par Christ qui est mort à la croix du calvaire, qui a pris la condamnation du péché à notre place. Lui était la lumière du monde. Tout avant lui était symbolique et était une image de Christ. Mais c'est lui qui est la lumière. Et c'est une première raison. Il est la lumière du monde parce qu'il révèle. Deuxième raison, ne voyez-vous pas que Christ et Christ seul est l'explication pour toute chose, l'explication pour notre existence, pour le monde qui continue? Pourquoi est-ce que le monde continue? Un monde qui est si hideux devant le Dieu Tout-Puissant, une humanité qui est en rébellion contre lui, qui est sous la condamnation, loin de lui, et tant de péchés, de cruautés, et toute l'horreur de la race humaine, où il y a des bonnes choses, mais tant de mauvaises choses, tant de péchés. Pourquoi est-ce que Dieu tolère tout ceci? Pourquoi est-ce que ceci continue? Oh, le monde aurait pu être détruit il y a bien des siècles. Pourquoi est-ce que le monde continue? Et la réponse est la suivante. Grâce à Christ. parce qu'il est venu. Il a souffert et il est mort pour des millions de personnes. Beaucoup ne sont pas encore nés, des gens qui seront amenés à lui et qui vont le trouver et marcher avec lui. Et son œuvre d'amener les gens hors de la rébellion et hors du monde pour le trouver et pour le connaître. Ceci continue, c'est pour lui, parce qu'il rassemble ses rachetés, ses enfants. C'est pour cela que le monde continue et il soutient le monde. Il est la raison. Je suis la lumière du monde, l'auteur de la révélation et la raison même pour laquelle le monde continue. Bien sûr, dans ce sens-là, il est la lumière du monde, mais il est également la lumière du monde pour une troisième raison. Rapidement, et j'ai déjà mentionné ceci, c'est la lumière de son œuvre. Nous ne le voyons pas uniquement lui, mais ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait, c'est comme le lever du matin et le monde est plein de lumière. Comment est-ce que la race humaine peut être rachetée? Comment est-ce que la race humaine peut être pardonnée? Comment est-ce que Dieu va amener le pardon de la race humaine ou de ceux qui croient en Christ, les membres de la race humaine qui croient en lui, de manière à ce que leurs péchés soient ôtés? Comment? Ceci doit être accompli par Christ et en son œuvre. C'est la lumière elle-même, c'est la lumière pure. Et vous voyez comment Dieu sauve, vous voyez qu'il est venu dans ce monde, vous voyez son ministère, sa compassion, ses miracles, mais d'une manière suprême, vous le voyez, lui, comme je l'ai mentionné, il est allé à la croix du calvaire, il s'est laissé clouer là, comme s'il appelait son Père, qu'il disait « Me voici, mets ta condamnation sur moi », et d'une manière invisible, le Père lui a déversé cette condamnation que nous ne pouvons pas exprimer par un langage humain, bien plus douloureux, une agonie bien plus grande que les coups de fouet qu'il a reçus ou la couronne sur sa tête ou le tourment des clous à la chaleur du soleil. Dieu a déversé sur lui la condamnation invisible, le péché de tous ceux qui seront pardonnés, tous ceux qui se tourneront vers lui dans toute l'histoire du monde et qui se confieront en lui. Et il a mis sur lui le poids éternel de la condamnation, d'une certaine manière compressé dans un certain temps. Et il a tout porté. C'est ainsi qu'il a payé le prix pour notre salut, pour nous sauver. L'amour de Dieu à la croix du calvaire. Christ a été appelé l'amour de la croix du calvaire pendant des générations. Il avait à l'esprit, tous ceux pour qui il est mort. Et il connaissait chacun, bien sûr, parce qu'il était Dieu tout autant qu'homme. Mais dans la chair humaine, il a souffert tellement pour payer le prix pour le salut et pour ôter nos péchés. Il est la lumière du monde. Quand vous voyez ceci, quand vous voyez ce que Christ a fait, et que vous comprenez ces choses, que vous ressentez ces choses, c'est comme la lumière la plus extraordinaire qui rentre dans votre vie et petit à petit, le soleil se lève et irradie toute chose et c'est le jour le plus beau pour vous. Si vous voyez la croix du calvaire et la mort expiatoire de Christ, alors ceci vous amène à une nouvelle lumière et un jour nouveau dans ce sens-là. Il est la lumière du monde. Et pour finir, j'aimerais vous donner un autre sens dans lequel il est la lumière du monde. Il est la lumière à suivre, comme aucune autre lumière. Nous sommes des gens qui habitons la ville, ou la plupart d'entre nous. Nous avons certaines personnes qui habitent à la campagne, qui sont venues en ville, mais pour la plupart, nous vivons en ville. Il y a des lampadaires partout, la lumière partout. Si vous avez un grand jardin, peut-être que vous avez besoin d'une lampe de poche. Mais la plupart des gens en ville n'ont pas de lampe de poche. C'est inutile. Mais quand vous allez à la campagne, peut-être vous êtes en vacances dans une petite maison de campagne et vous voulez marcher le long de la route dans une nuit sans lune et vous êtes émerveillé parce que vous ne pouvez rien voir, il n'y a pas de lumière, c'est si sombre et nous ne voyons pas où nous marchons et c'est une expérience totalement nouvelle. Quand nous sommes hors de la ville, c'est si sombre. Bien sûr, au temps de Christ, il n'y avait pas de lampadaire. Vous étiez hors de la ville et c'était dangereux. Quand vous alliez avec quelqu'un qui peut-être avait une torche ou une lampe à huile et vous restiez bien proche de cette personne qui avait cette lampe parce que vous pouviez ainsi voir où vous étiez et où vous alliez. C'est là la lumière suprême à suivre, c'est Christ. Sans lui, vous ne pouvez pas trouver votre chemin dans la vie. Vous n'avez pas d'expérience spirituelle. Il est la lumière du monde dans le sens qu'il est celui qui va illuminer votre chemin spirituel. Et vous devez le suivre et personne d'autre. Chers amis, quand j'étais jeune, je n'avais pas entendu parler du salut de Christ. Oh, j'avais quelques connaissances par rapport à la religion. Oh, je suis un homme âgé et il y a bien des années, tout le monde avait une certaine connaissance de la religion. Nous apprenions bien plus par rapport à la foi chrétienne à l'école. Nous avions des rencontres le matin, régulièrement des leçons. Et l'école dans laquelle j'allais, elle avait un fondement religieux, de nom en tout cas. Oui, je connaissais l'histoire de Christ, j'ai entendu parler de Christ, et beaucoup par rapport aux Écritures. Et cependant, avec beaucoup d'autres personnes également, j'étais complètement ignorant. Quand j'étais adolescent, je ne comprenais pas ces choses. Je n'ai jamais réalisé que moi, j'étais sous le jugement de Dieu, sous la condamnation, que j'étais condamné par Dieu et loin de lui. Je n'ai jamais réalisé un seul moment ceci, avec toute ma connaissance théorique. Et je n'ai jamais réalisé que le but de la vie, c'était de chercher, de trouver le Seigneur et de marcher avec lui et de l'expérimenter et d'être tout près de lui, et d'apprendre de lui, de le servir, et de nous réjouir pour la gloire céleste. Oh, je n'ai jamais réalisé ceci en tant que jeune. Je pensais que le but de la vie, c'était de réussir, et si possible, d'être riche ou connu, célèbre, d'être quelqu'un, et d'être accompli dans les choses matérielles et satisfait. Je ne savais pas qu'il y avait un objectif spirituel, que tout le but de la vie, c'était bien plus élevé que ceci, je n'ai pas réalisé ces choses. Je ne savais pas qu'il y avait un jour du jugement. Oh, j'ai entendu parler de ceci, mais pour moi c'était comme un mythe. Ce n'était pas quelque chose de réel. Oh, je n'ai pas réalisé que ceci était une réalité. Et je n'ai pas réalisé qu'il y avait un enfer. Oh, j'avais entendu parler de l'enfer, mais je pensais que c'était un mythe. Je ne savais pas que c'était là que je devais aller, parce que j'étais une personne désobéissante envers Dieu et orgueilleuse. Oh, je ne savais pas que je pouvais connaître Dieu réellement, connaître Dieu vraiment. Je n'ai pas compris ces choses en tant que jeune. J'étais ignorant également par rapport au monde. J'étais très naïf par rapport au monde. Je pensais que c'était un endroit merveilleux, qu'il y avait des problèmes, mais que nous allons pouvoir tout résoudre et que le monde allait s'améliorer et que je n'aurais pas de déception. Je pensais ceci. J'étais ignorant de la réalité, ignorant de Dieu, ignorant du péché. Et c'est ainsi que nous vivons, sans la lumière de Christ. Je suis la lumière du monde, dit Christ. Et toutes ces choses, nous pouvons y remédier en venant à Christ. Et j'aimerais conclure en relisant le verset 12. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit, celui qui me suit. Est-ce que vous avez remarqué celui qui me suit ou celle qui me suit? C'est adressé à des individus. Vous ne pouvez pas trouver Dieu en tant que groupe. Vous ne pouvez pas trouver Dieu simplement en étant membre d'une certaine famille. Mais en tant qu'individu, nous devons ressentir notre besoin de lui et notre péché et notre besoin du pardon. Et nous avons besoin de fléchir le genou un à un et de venir à lui et d'invoquer son nom pour sa miséricorde, pour son pardon et pour la vie nouvelle. Celui qui me suit, et je ne veux pas passer trop de temps là-dessus, mais c'est l'image d'un disciple, d'une personne qui suit un enseignant dans ces jours-là, était un disciple. Un disciple. Comment est-ce que vous définissez un disciple? Un disciple était caractérisé par trois choses. Il écoutait, bien sûr, son enseignant favori, il écoutait et il comprenait. Mais, deuxièmement, il le suivait littéralement. Il était partout avec lui. Il l'écoutait. Quand il parlait en plein air, il le servait et il était tout près de lui. Et troisièmement, il proclamait son message. Il parlait à d'autres du message de son maître. Et c'est là le terme que Christ utilise, celui qui me suit comme un disciple. Il devient mon disciple. Il écoute. Il s'attache à moi. Il m'obéit. C'est là un disciple. Vous pensez à Pierre et à Jean qui étaient pêcheurs et ils ont laissé leur filet et ils ont suivi Christ. Vous pensez à Matthieu qui était collecteur d'impôts, un homme bien riche. Il avait acheté le droit de collecter les impôts dans toute cette région et il donnait la plupart de l'argent aux autorités romaines et il gardait un certain pourcentage. Il travaillait pour les Romains. Il a acheté cette région aux Romains, mais il a tout laissé pour suivre Christ. Et des millions de personnes n'abandonnent pas forcément leur profession, leur travail, leur métier, mais dans beaucoup d'autres aspects, ils sont disciples, ils suivent Christ, ils croient dans son message, ils obéissent et ils se repentent, ils le cherchent. Et ensuite, ils vivent pour lui et parlent pour lui. Celui qui me suit ne marchera point. En grec, c'est plus puissant que ceci. Il ne marchera plus dans les ténèbres. En grec, c'est il ne marchera d'aucune manière dans les ténèbres, en aucun cas. Mais il aura la lumière de la vie. Votre vie sera remplie de puissance et d'un but et de signification. Vous aurez une vie nouvelle et une nouvelle nature. Et cette communion avec Dieu, et vous allez marcher avec lui, et le servir, et l'aimer. Et tout sera entièrement différent. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point, en aucun cas, dans les ténèbres. Mais il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie, de connaître Christ, d'avoir un sens à notre vie, et il est votre guide. Il vous dirige. Et vos péchés sont pardonnés, et vous pouvez vous réjouir pour la gloire céleste et éternelle, et vous pouvez prier et marcher avec lui. C'est là la chose la plus merveilleuse, le bien le plus précieux, qui ne peut pas être acheté. Mais vous le recevez en vous humiliant devant Dieu, en vous repentant de votre péché, en lui demandant de vous transformer, et en lui donnant votre vie. Si vous faites ceci, vous recevez la vie spirituelle, une nouvelle nature et la communion avec Dieu, un ami au ciel. Et vous recevez la compréhension, comme jamais auparavant, du monde autour de vous et de l'avenir. Celui qui me suit, qui est-il? Il est Dieu. Dieu est devenu homme. Il est le Dieu Tout-Puissant. Lui, il est votre ami. Et votre Sauveur au ciel. Qui suivons-nous? Et j'en arrive à ma conclusion. Qui suivons-nous? Le monde, la chair et le diable? Dans cette expression ancienne, je suis le monde, oh, je veux la réussite dans ce monde matériel. Et c'est tout ce qui m'intéresse, rien de spirituel. Je vais aimer ce monde et vivre pour ce monde. La chair, je vais vivre pour me faire plaisir. Pour satisfaire mes désirs, pour tout ce que je peux avoir dans ma vie. Et le diable, je vais abandonner les principes de Dieu. Je ne suis pas intéressée par une vie pure et sainte, mais je vais abandonner les critères moraux de Dieu et je vais faire tout ce que je veux et tout ce qui me tente, le monde, la chair et le diable. Ou alors nous suivons Christ et nous le connaissons et il est notre Sauveur. Chers amis, ces paroles sont un appel et une promesse pour nous humilier, pour rechercher le Seigneur. Et ma tâche, simplement, c'est de plaider avec vous tous et pour vous implorer, même aujourd'hui, à venir à Christ, qui est la lumière du monde, l'auteur divin de la révélation, qui nous enseigne le chemin vers Dieu, l'explication pour l'existence même du monde. Et son œuvre même resplendit de cette lumière. Il nous montre comment être sauvés. Et sa lumière qui sauve nous amène à la gloire céleste. Chers amis, venez à lui. Prions ensemble. Ô Dieu, notre Père céleste, fais-nous grâce à chacun, nous te prions ce soir et aide-nous. Seigneur, ne permets pas que nous continuions dans l'ignorance de ces choses, en dehors de ton royaume, loin de toi, de la seule vraie lumière. Seigneur, viens et œuvre dans nos cœurs. Amène les âmes à toi et bénis-nous à présent et éternellement. Nous te le demandons dans le nom de notre Sauveur, pour sa gloire. Amen.